de femme de chambre. Je ne crois pas qu'elle ait un défaut. Ah, moi, je lui en connais un, madame la comtesse, dis-je, en affectant la gravité. Ah ? Et lequel ? Fit-elle languissamment avec le désintérêt de ce qu'elle disait, en regardant toujours dans sa petite glace où elle étudie attentivement ses lèvres pâles. Elle est trop belle, dis-je. Elle est réellement trop belle pour une femme de chambre. Un de ces jours, on vous l'enlèvera. Vous croyez, fit-elle, toujours en se regardant et toujours distraite de ce que je disais. Et ce sera peut-être un homme comme il faut et de votre monde qui s'en amourachera, madame la comtesse. Elle est assez belle pour tourner la tête à un duc. Je prenais la mesure de mes paroles tout en les prononçant. C'était là un coup de sonde. Mais si je ne rencontrais rien, je ne pouvais pas en donner un de plus. Il n'y a pas de duc à V, répondit la comtesse, dont le front resta aussi poli que la glace qu'elle tenait à la main. Et d'ailleurs, toutes ces filles, la docteur, ajouta-t-elle en lissant un de ses sourcils, quand elles veulent partir, ce n'est pas l'affection que vous avez pour elles qui les en empêche. Eulalie a le service charmant, mais elle abuserait comme les autres de l'affection que l'on aurait pour elle, et je me garde bien de m'y attacher. Et il ne fut plus question d'Eulalie ce jour-là. Il y avait plus de 2 mois que j'allais voir la comtesse dont la santé ne s'améliorait pas. Savigny et Hauteclair continuaient de jouer avec la même perfection la très difficile comédie que mon arrivée et ma présence au château n'avaient pas déconcerté. Hauteclair, à la beauté immobile, avait les yeux battus. Pas battus comme on les a quand ils ont pleuré, car ces yeux-là n'ont peut-être jamais pleuré de leur vie. Mais ils l'étaient comme quand on a beaucoup veillé, et n'en brillaient que plus ardents du fond de leur cercle violâtre. J'en étais à regarder ces marques trahissantes, m'interrogeant tout bas et ne sachant trop que me répondre, quand un jour, étant allé faire ma tournée de médecin dans les alentours, je revins le soir par Savigny. Ma montre de chasse était arrêtée, mais la lune, qui avait commencé de descendre l'autre côté de sa courbe dans le ciel, marquait à ce vaste cadran bleu un peu plus de minuit, et touchait presque de la pointe inférieure de son croissant la pointe des hauts sapins de Savigny derrière lesquels elle allait disparaître. Tout à coup, dans l'épaisseur de ce bois noir, où je ne voyais goutte de lumière ni n'entendais goutte de bruit, voilà qu'il m'en arriva un à l'oreille que je pris pour celui d'un battoir. Ce ne fut qu'en avançant vers le château qu'à ce claquement régulier se mêla un autre bruit qui m'éclaira sur la nature du premier. C'était un cliquetis d'épées qui se croisent et se frottent et s'agacent. J'entendais, à ne pouvoir m'y méprendre, le froissement animé du fer. Une idée me passa dans l'esprit. « Tiens, fis-je, admirant la force des goûts et des habitudes, voilà donc toujours leur manière de faire l'amour. » Il était évident que c'était Cerlon et Hauteclair qui faisaient des armes à cette heure. On entendait les épées comme si on les avait vues. Ce que j'avais pris pour le bruit des battoirs, c'était les appels du pied des tireurs. Une fenêtre était ouverte dans le pavillon le plus éloigné des 4 pavillons de celui où se trouvait la chambre de la comtesse. Le château endormi, morne et blanc sous la lune, était comme une chose morte. Partout ailleurs que dans ce pavillon, choisi à dessein, et dont la porte-fenêtre ornée d'un balcon donnée sous des persiennes à moitié fermées, tout était silence et obscurité. Mais c'était de ces persiennes à moitié fermées et zébrées de lumière sur le balcon que venait ce double bruit des appels du pied et du grincement des fleurets. Il était si clair, il arrivait si net à l'oreille que je préjugeais avec raison, comme vous allez le voir, qu'ayant très chaud, on était en juillet, ils avaient ouvert la porte du balcon sous les persiennes. J'avais arrêté mon cheval sur le bord du bois, écoutant leur engagement qui paraissait très vif, intéressé par cet assaut d'armes entre amants qui s'étaient aimés les armes à la main et qui continuaient de s'aimer ainsi. Quand au bout d'un certain temps, le cliquetis des fleurets et le claquement des appels du pied cessèrent. Les persiennes de la porte vitrée du balcon furent poussées et s'ouvrirent, et je n'eus que le temps, pour ne pas être aperçu dans cette nuit claire, de faire reculer mon cheval dans l'ombre du bois de sapin. Cerlon et Hauteclair vinrent s'accouder sur la rampe de fer du balcon. Je les discernai à merveille. La lune tomba derrière le petit bois, mais la lumière d'un candélabre que je voyais derrière eux dans l'appartement mettait en relief leur double silhouette.